Vous êtes sur RTL.
Et pour le moment, c'est Madeleine qui est avec nous. Bonsoir Madeleine.
Oui, bonsoir Caroline. Je vous remercie de me rappeler.
Voilà. Bienvenue.
C'est très gentil. Je ne suis pas très à l'aise parce que je pars un peu dans tous les sens. Je vais essayer de me canaliser.
Canaliser un peu cette énergie.
Voilà, non, ce n'est pas de l'énergie, c'est plutôt l'anxiété.
L'inquiétude.
L'inquiétude.
Alors, ne vous inquiétez pas, on se perd.
Voilà, vous me ramenez sur le...
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Il y a deux problèmes. D'abord, mon problème personnel, j'ai un glaucome bilatéral. J'ai le nerf optique à gauche qui est coupé, donc mon œil est aveugle. Et à droite, le glaucome continue. Je suis soignée, j'ai été même au 15-20 à Paris pour me faire soigner, j'ai été opérée 10 fois. Et là, le chirurgien, le professeur, me dit « Bon, ça va ?» Je lui dis « Ben non, vous voyez bien que ça continue. Ça continue, mon glaucome continue. » Et j'arrive maintenant à dire « aveugle », vous voyez, parce que j'arrivais pas à prononcer ce mot.
Oui.
Bien, et puis...
Il y a Elisabeth Quin, dont vous avez peut-être qui en parle, enfin, elle a écrit un livre à ce sujet.
Sur le glaucome ?
Sur le glaucome. Après, il y a différentes formes, mais oui, elle a cette peur, cette crainte aussi
d'être aveugle.
Et alors, j'ai vu passer un article. Il y aurait actuellement, il y a eu une recherche de fait des résultats. Je veux pas vous induire en erreur, mais justement, où il y a eu une avancée dans ce domaine du glaucome. Il faudrait en reparler avec votre ophtalmo.
Oui, le chirurgien.
Alors après, tous les cas sont différents, mais j'ai vu un article passer.
Oui.
Il y aurait eu des essais assez prometteurs.
Oh là là, alors je lui demandais, mais il n'y a pas longtemps. Hein,
il n'y a pas longtemps.
Non, il n'est pas bien. Non,
après, ça dépend des formes.
Oui, alors moi, c'est bilatéral, chronique bilatérale, il y a angle ouvert.
Je peux vous dire, oui.
Oui. Et il m'a dit, allez sur. Parce que je lui pose des questions, mais il ne me répond pas. Alors il a dû se dire, elle me casse les oreilles. Alors je lui.
Le livre d'Elisabeth Quin, en fait, le titre est à la fois très beau et bon, et très.
Oui, alors
la nuit se lève.
La nuit se lève, Elisabeth.
Elisabeth Quin.
Se lève.
U-I-N.
Oui.
Une journaliste et oui, elle écrit justement sur. Alors c'est pas un livre scientifique. Hein, elle parle de son parcours et de son inquiétude.
D'accord. Et là, il m'a même pas donné. Ça avance, ça continue d'avancer, mon glaucome. Alors je lui dis, vous me donnez quelque chose. Il me dit non, il n'y a rien à faire. Il n'ose pas me dire, vous allez être aveugle, en fait. Alors il me dit d'aller sur glaucome.com, je téléphonais. C'est une équipe de bénévoles à Paris. Elles sont très gentilles, mais ça m'a pas. Il m'a dit qu'il fallait prendre des repères quand, je sais que je vais être aveugle. Et ça, je pense plus qu'à ça. Et j'ai mon neveu, donc, qui sort de prison et qui recommence à boire.
Mais pourquoi il était incarcéré suite à un...
Alcoolisme. Mais c'est le livre de Mathieu qui m'a... Le témoignage de Mathieu m'a fait réagir. Ah. Alors, je disais, c'est pas la peine de déranger Caroline pour mon glaucome, elle n'y peut rien. Et puis, il y avait donc son témoignage qui m'a touchée et je me suis reconnue dans cette histoire parce que...
Vous avez un neveu qui a ce problème.
Mon neveu, alcoolisme, plus de papier, plus de rien du tout. On l'a emmené en prison.
Mais pourquoi? Est-ce qu'il avait causé un accident?
Non, mais
il conduit sans permis.
Conduite sans permis.
Enfin, pour être incarcéré.
Oui, mais il disait rien. Il dit rien chez lui à sa maman, qui a 83 ans.
Quel âge votre neveu?
51.
Ah, mais oui.
Qu'est-ce que c'est ce qu'elle me dit. Ils avaient fait une tentative de pour le faire mettre sous tutelle. Mais comme il pourra plus sortir pour boire, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas ouvert sa maison. Ils sont venus avec l'assistante sociale, oui. Le médecin du village, oui. Le généraliste, le maire du village. Et puis il a jamais voulu ouvrir. Alors, il a continué, puis un jour, mais heureusement qu'il n'a pas eu d'accident, il pouvait tuer quelqu'un, enfin bon. Oui. Et ils l'ont emmené en prison.
Enfin, on n'emmène pas les gens en prison comme ça, hein. Il y a eu quelque chose.
Récidive.
Oui, mais récidive de quoi, vous ne savez pas, au fond. Oui.
Mais défaut de conduite, et conduite en état de. Mais alcoolisé à fond.
Oui, il a dû causer un accident, enfin.
Moi, ouf, il en a eu des accidents, il a cabossé toute sa voiture.
Il a pas de. Il y a longtemps qu'il s'alcoolise comme ça?
Oh oui, je pense. Très longtemps.
Il a un travail malgré tout?
Oui, il travaillait, il était ébéniste, mais maintenant il travaille métier. Plus. Mais oui, mais il travaille plus, oui. Et puis, attends, oh là, je suis perdu. Et puis donc. Comme il est revenu de prison, j'ai une sœur aînée, c'est sa maman, et une plus jeune sœur qui s'en est beaucoup occupée. Elle lui a fait faire des cures, des intoxications, mais c'est toujours eux qui décidaient, nous qui décidions. C'est la famille, mais lui, il n'avait pas envie. Hein. De toute façon, il pense qu'à mourir. Lui, il dit non, mais...
Il est très dépressif.
Très dépressif, oui. Et
pourquoi il va si mal, à votre avis? Enfin, qu'est-ce qu'elle en dit, votre sœur? Pourquoi il va si mal? Parce qu'on voit bien, là, il y a clairement de l'autodestruction. Il faudrait soigner son état dépressif.
Oui, mais...
Il a été hospitalisé?
Oh oui, hospitalisé, mais... Les cures des intoxications sont... Ben, parce qu'il dit que c'est sa femme qui... Sa femme...
Qu'est-ce qu'elle a, sa femme?
Ben, sa femme, elle l'a laissée, elle en avait marre, elle pouvait plus supporter. Elle pouvait plus supporter ça. Et puis... je sais pas, et puis je lui ai écrit quand il était en prison, je voulais vous demander votre avis quand il était en prison, et puis je savais pas trop quoi faire, et puis j'ai écrit, mais c'était une lettre, simplement, tu sais que tu es gentil, tout le monde t'aime parce que ses enfants veulent plus le voir.
Oui.
Ils veulent plus, ils en ont marre.
Ouais, oui.
Ils en ont marre.
Comme le disait Mathieu, enfin.
Et c'est ça.
Ils se protègent.
Et oui, voilà. Voilà.
Mais alors, c'était gentil, dans certainement qu'il devait être très mal et très malheureux de se retrouver incarcéré.
Oui.
Et le mot que vous mettiez en disant que vous l'aimiez, c'était déjà montré que lui témoignait de l'affection. Ça.
Ben, c'est ce que j'ai trouvé lui dire. Oui. Je lui dis, mais tu sais, pour expliquer que ses enfants ne voulaient pas l'appeler, ils ne l'appelaient pas. Hein, et ils ne voulaient pas l'appeler, ils en ont marre, ils disent non, on en a marre. Et ma plus jeune sœur a fait faire des cures d'intoxication, et puis c'est l'établissement de cure qui le renvoyait. Il achetait du vin pendant qu'il était...
Pendant qu'il était hospitalisé, donc dans ces cas-là,
dès cas-là,
qu'il y a une transgression,
mais tu ne peux rien faire, on ne peut pas sortir de là.
Mais il ne faut pas désespérer non plus, parce que moi j'ai eu des témoignages où parfois, justement, des personnes ont fait plusieurs cures et à chaque fois ça se passait pas bien ou elles replongeaient. Et puis parfois, il y a une cure où tout d'un coup il y a un déclic. Il en parlait, Mathieu.
Et Mathieu en parlait, oui.
D'un déclic.
Oui. Et justement.
Ça peut arriver, on ne sait pas, ça peut.
Le déclic qu'il a eu, lui, c'est que le premier jour de sa sortie de prison, il s'est fait emmener par son fils chercher des cigarettes et puis il est revenu avec de l'alcool. Alors, vous voyez le déclic qu'il a eu. Et alors, moi, je me disais. Je vais lui demander son numéro de portable et je lui téléphonerai le soir. Et puis mon fils est allé le voir, j'ai un fils qui est très gentil, qui a 8 ans. Il est allé le voir et puis il est infirmier, mon fils, donc et puis il est très très gentil. Alors il lui dit pompier chez les infirmiers. Alors c'est infirmier chez les pompiers. Donc il lui dit écoute, si tu veux, je t'aide à nettoyer ton atelier parce que c'est tout à l'abandon. Il dit oui. Et puis je disais à mon fils, écoute, moi je vais l'appeler. Il me dit, maman, il va tirer par le bas, ce gars. Il va tirer par le bas. Oui. Parce que toi, t'es déjà en dépression.
Oui, vous êtes... voilà. Vous êtes, c'est normal, très préoccupé,
oui,
très angoissé.
Oui, par ma santé.
Mais il est gentil, votre fils, il veut vous protéger.
Très, très gentil. Très gentil. Elle aurait me dit, ne t'en occupe pas. Mais j'ai du remords maintenant. Parce que je ne peux pas le joindre, je ne conduis plus, je ne peux plus conduire.
Il est loin de... Il est proche de vous, vous voulez dire, géographiquement?
Mon fils?
Non, votre
neveu. Non, 25 kilomètres.
D'accord. Oui, évidemment, vous ne conduisez plus.
Non, je ne peux plus.
Mais...
Enfin... Alors, je ne sais pas quoi faire pour l'aider. Parce qu'il est dans le déni. Il est dans le déni.
Oui, pour le moment, oui.
Oui, alors je lui dis, écoute, pendant 6 mois, tu n'as pas bu, il faut que je puisse t'appeler. Oh, mais je ne veux pas boire. Oh, mais non, il veut la tutelle. Parce que je lui dis, tu sais, ils vont te refaire mettre sous tutelle. Hein. Ah, mais non, ça a été refusé, la tutelle. Lui, il croit que ça a été refusé. Et puis, mais ils vont recommencer. Ils veulent le faire mettre sous tutelle.
Ben, de toute façon, il a dû avoir, j'imagine, enfin, quand il est passé au tribunal, souvent dans ces cas de figure, on impose une injonction de soins. Mais enfin, bon, il refuse tout pour le moment.
Oui, je crois, parce que ma sœur s'est renseignée auprès de l'assistante sociale en lui disant, mais est-ce que il y a une prise en charge, est-ce qu'on le... Non, il n'y a rien. Et puis lui, il dit non, rien.
Et pourquoi vous étiez proche de ce neveu auparavant?
Oui. Puis c'est un gentil. Moi, j'avais pas d'enfant. C'est lui qui était mon filleul. Alors, je m'en occupais comme de mon
oui,
fils.
Oui, on sent, oui, qu'il y a un lien.
Ah, il est aimé, il est gentil. Il est gentil, c'est incroyable.
Il est gentil. Mais ça, bien sûr, ça n'empêche pas qu'il ait des qualités humaines, mais il va très mal. Et votre fils, à la fois parce que c'est votre fils, mais aussi de par sa fonction de soignant, c'est que on peut. Enfin, ça peut être très déprimant parce qu'au fond, pour vous qui, avec beaucoup d'affection, vous aimeriez l'aider.
Mais votre fils vous renvoie cette impuissance
que tout le monde rencontre actuellement parce que dans son environnement il y a des mains tendues mais pour le moment il ne s'y accroche pas.
Donc
dans ces cas-là, votre fils qui déjà vous sait très angoissé, et on le comprend au vu de ce que vous traversez, il réagit en fils protecteur et aimant en disant oh, maman, écoute,
ça
risque d'être plus voilà, oui. d'être déprimant oui. pour toi oui. et de oui. te mettre en tout cas dans une mission. Pour moi,
alors je sais pas quoi faire. J'ai pas pris son numéro de téléphone, son portable, parce que j'ai peur si je l'appelle. Ça va être un soir, parce qu'il se rentre chez lui et il doit boire.
Et il a répondu à votre lettre en prison?
Non, mais il l'a dit à sa maman tout de suite. Il a dit, il n'y a que sa maman et ma sœur aînée qui sont allés le voir.
Oui.
Et puis il leur a dit, elle m'a écrit, je peux dire mon prénom, je ne vais pas vous dire, voilà.
Ça l'a touché.
Oui, elle m'a écrit.
Mais vous pouvez lui remettre un petit mot?
Lui réécrire à nouveau?
Oui. Dire vous savez qu'il est sorti, vous en êtes heureuse pour lui, que c'est quelqu'un de bien, que c'est quelqu'un de gentil, et il faudrait que c'est dommage qu'il se détruise comme ça, et qu'il a beaucoup de qualités, vous l'aimez beaucoup, et vous pensez à lui.
Parce que je lui ai dit, tu sais, tu t'étonnes parce que tes enfants, mais nous on n'a pas eu l'habitude de montrer de l'affectif. Il n'y avait pas de marque d'affection chez nous. Et je lui dis, tu sais, parce que c'est un milieu paysan, alors vous savez, c'est dur, hein, ils sont très très durs. Et moi je lui dis, mais tu sais, moi j'embrassais mon père une fois à l'année, et la veille du jour de l'an, je disais, oh là là, demain je vais embrasser papa.
Ah, vous en faisiez une fête?
Ben oui, moi j'étais contente.
Bien sûr.
On s'embrassait jamais avant. Alors moi, ça ne me manque pas qu'on ne puisse pas s'embrasser.
Eh bien, au moins, vous aviez un temps d'avance, vous avez oui. raison, comme ça, finalement.
Il y a longtemps que je m'y suis préparée.
Oui, c'est ça.
Mais c'est pour Christophe, ça me fait tellement de peine. Oh. Oui.
Mais écoutez, vous pouvez lui mettre un petit mot, parce qu'on sent que vous avez beaucoup d'affection pour lui.
Oui.
Vous voyez, lui mettre un petit mot, lui dire que vous pensez à lui, que ce que... en évoquant des petites anecdotes peut-être de qui vous reviennent en mémoire ou en mettant en avant que c'est vous l'aimez beaucoup, voilà, et que vous
il n'y a rien d'autre à faire que
non.
Caroline, qu'est-ce
non,
que
non,
je peux
non.
faire qu'est-ce
non.
que je peux faire, puis il n'y a que lui qui peut prendre la décision.
Oui, il y a Gisèle, vous voyez, une auditrice qui envoie un petit message, elle dit « je suis une ancienne alcoolique ». Et elle dit « bah oui, y a les alcooliques sont gentils de nature », dit Gisèle. Bon,
ah oui.
Pas tous, hein, cela dit, mais elle dit quelque chose de juste, elle dit « le problème, ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions, est-ce qu'il faut, c'est un déclic ». On voit, cela dit, là où je rejoins Gisèle, c'est que parfois dans ces addictions, on retrouve chez les jeunes comme ça, alors ça peut être l'alcool, est lié à d'autres substances toxiques, sont souvent, mais elle a raison, quelque chose d'une extrême sensibilité qui les encombre finalement, qui les embarrasse, et c'est une façon de s'anesthésier, comme s'ils se sentaient pas finalement dans ce monde, au fond, tous les heurtés, tous les blessés, et qu'il y avait quelque chose où ils s'anesthésient comme ça. Et c'est tragique, parce que souvent, oui, il y a des jeunes qui sont, et moins jeunes, plein de qualités humainement, mais très sensibles.
J'ai le temps de vous raconter une anecdote.
Bien sûr, oui.
Il a deux enfants et c'était son deuxième bébé qui était né, et moi j'avais acheté un cadeau et j'étais allée lui porter, et ils habitent dans la même cour avec sa maman et lui et sa femme qui était là, et je me souviens être rentrée, apporter le cadeau et sa femme. Ça, c'est des histoires, on sait pas trop pourquoi. Il y a des gens qui vous aiment pas. Pff, moi, j'avais pas fait attention, j'avais apporté le cadeau au bébé. Et puis, mais elle m'a pas dit merci, elle a pas ouvert le cadeau, rien du tout, rien. Alors, j'étais repartie. Mm-hmm. Et bien, lui, il me courait derrière et puis il me disait, oh, mamadou, mais viens boire, on va t'offrir à boire et tout ça. Je lui dis, non, c'est bon. Et puis, il était très gêné que sa femme ne dise pas, parce que c'était...
Mais il vous aime bien.
Oui,
c'est pour
bien.
Ça que, vous savez, des marques, des témoignages d'affection, ça peut lui faire du bien. De
d'accord.
sentir que
il
y a des gens qui l'aiment, qui savent que c'est quelqu'un de bien. Et bon, alors c'est pas ça qui va faire qu'il va accepter de se soigner, mais en tout cas, des témoignages d'affection, ça peut être important.
Oui.
Donc oui, vous pouvez
lui
mettre un petit mot. Il y a Violaine qui dit à propos de ce problème de glaucome dont vous nous parlez.
Oui.
Je crois que j'avais vu effectivement quelque chose. Elle dit j'ai vu effectivement se passer sur internet qu'un homme a recouvré la vue après l'implantation d'une cornée artificielle par une équipe israélienne.
Pour le glaucome ?
On n'a pas la précision. Elle dit, en tout cas, la science fait des progrès considérables. J'avais vu passer une avancée extraordinaire dans le domaine ophtalmo. Moi, il m'avait semblé voir associer le mot glaucome.
Ah bon ?
Mais je mets ça avec beaucoup de guillemets, parce que je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous dire. Et je vous dis, j'ai vu passer un article. Et j'avais pensé à Elisabeth Quint, parce qu'elle, je sais qu'enfin, elle en avait parlé de sa peur, de son angoisse, et qu'on comprend parfaitement. Enfin, évidemment. Enfin, c'est.
Oui.
Et là aussi, bon, il faut miser sur la recherche qui parfois fait des bons en avant extraordinaires.
Alors justement, je dis au professeur qui me soigne, je lui dis, mais il y a des avancées thérapeutiques un petit peu pour le glaucome. Il me dit, bon non. Non. Je lui dis,
mais il est
pas
rassurant.
Oui, pas du tout, mais je ne peux plus changer maintenant.
Oui, plus. Ben, c'est compliqué, oui.
Je suis allée au 15-20 à Paris, là-bas, qui m'avait dit, non, vous êtes très bien soigné à Paris, puis c'est quelqu'un de... C'est le centre du glaucome, c'est le professeur que je vais voir, quoi. Et je lui dis, mais on parle que de la DMLA. Ben, il me dit, effectivement, on parle que de la DMLA, mais pour le glaucome, il n'y a rien. Et moi, il m'a posé un drain. Et depuis que j'ai ce drain, parce que c'est de l'eau qu'on a, on a dans l'œil et qui ne s'évacue pas.
C'est pas douloureux ?
Non, c'est justement, on ne voit pas quand on est en poussée. Alors, les nuits, je ne dors rien parce que je guette si j'ai un signe.
Ah oui.
Alors, oh là là, j'ai mal à droite. Oh là là, bah, je ne dors rien, je ne dors rien. Je me lève, je me mets de la pommade dans l'œil. Enfin,
La pauvre, vous êtes angoissée.
Ah oui, c'est terrible.
Je comprends. Oui.
Et là, le 15 mai, il m'a dit, mais faites-vous soigner à Lyon, ça, c'est très bien, et c'est lui qui a le centre. Mais j'ai vu tous les ophtalmos de Lyon. Tous les grands pontifes, je les ai vus, et puis...
Oui, vous avez vu vraiment tous les spécialistes, qui donc sont informés des nouvelles avancées, des nouvelles...
Et il me disait, mais vous êtes anxieuse? Alors je lui dis, bien sûr.
On le sera moi.
Alors, il me dit, mais il faut pas pour votre... pour le glaucome. Alors c'est pour ça aussi que mon fils, il me dit, mais t'as assez de choses, toi.
D'accord,
arrête,
l'anxiété aussi renforce, d'accord.
Eh oui.
Mais il a raison, votre fils. Je trouve que vous avez déjà suffisamment, c'est suffisamment lourd à porter, sans plus prendre en charge. Enfin, vous voyez, que vous mettiez un petit mot, mais vous pouvez pas. Il risque de vous enfoncer un peu, ou en tout cas d'attendre. Ça peut déclencher chez lui une attente auquel que vous ne pouvez pas prendre en charge.
Cérébralement, je crois qu'il reste plus.
Il vous faut un environnement plutôt calme, et essayez de trouver quelque chose par rapport à cette anxiété. Bien compréhensible, bien légitime, au contraire, qui pourra un peu vous apaiser. Voyez, je ne sais pas, en en parlant à votre médecin traitant, peut-être un peu de la relaxation, enfin quelque chose, ou un petit traitement, quelque chose, enfin, pas de source de stress supplémentaire. Je rejoins votre fils, Madeleine. Il faut vraiment que vous preniez soin de vous. D'accord. Bon courage.
Merci beaucoup. Merci, Caroline.
Bon courage à vous, Madeleine.
Merci beaucoup.